When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm. Incredible web shows. Cette émission vous est présentée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 98. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2012, c'est l'épisode 98. Je suis Patrick Béja, nous allons parler de tout plein de choses super intéressantes comme la taxe Google qui vise à... Enfin bon, la taxe Google et Google contre la presse française, des questions de liberté d'expression assez intéressantes, le lancement de Windows 8 et tout plein d'autres choses de ce genre-là. Je suis avec deux invités prestigieux, sympathiques et intelligents. Que demander de plus? Jeff Clavier et Mike du podcast NipTech qui nous fait l'amitié de revenir. Comment allez-vous, messieurs?
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va très bien, j'allais dire là où il fait beau et chaud, mais en fait, on s'est pris la première grosse averse en Californie, donc aujourd'hui, il pleut.
Bah écoute, aujourd'hui, il fait super beau à Paris. Donc voilà, on s'est échangé les météos.
Bon, ben moi je suis à Lausanne en Suisse, d'ailleurs je suis le seul avec un accent, hein. Donc on va pouvoir me reconnaître, je suis le seul qui dit 98 au lieu de dire 98, et alors si vous m'entendez, il faisait aussi très beau à Lausanne en Suisse, au bord du lac.
C'est merveilleux, l'Europe a volé
ça,
le
ça va ou bien.
Ça va ou bien, et on pense toujours que c'est que le Suisse dit ou bien, que c'est un cliché, mais non, le Suisse romand le dit. Donc, cliché.
J'ai passé beaucoup de temps à Genève et le ou bien.
Oui, le ou bien se dit, c'est vrai. Hein. Tout à fait.
Jeff a aussi un accent. En fait, il a l'accent Jean-Claude Van Damme. Donc, t'inquiète pas, t'es pas le seul, en fait. Donc, on va partir dans une émission plutôt sympathique, j'espère. Avant de se lancer dans les sujets brûlants de l'actualité, j'aimerais revenir un tout petit peu et assez rapidement sur l'épisode précédent qui a fait beaucoup réagir les auditeurs sympathiques du Rendez-vous Tech. C'est l'épisode, pour ceux qui l'ont raté, où on a parlé beaucoup des pigeons, du mouvement des pigeons et de la loi de finances 2013 du gouvernement. On va pas refaire le débat, je vais peut-être donner la parole quelques instants à Jeff et Mike qui sont dans ce monde de l'entrepreneuriat qu'on évoquait dans deux minutes. Mais avant, je voulais dire quand même quelques mots sur l'épisode en général et les réactions qu'il a suscité. Pour dire que on n'a sans doute pas... Je prends la responsabilité de cette émission, comme toujours. Je pense que je l'ai pas bien géré et pas bien amené, et je voulais m'en excuser auprès des auditeurs, parce que c'est vrai que le Rendez-vous Tech est bon, le Rendez-vous Tech fonctionne quand on explique les choses et quand on vulgarise et quand on simplifie l'actualité tech, même quand elle a des implications politiques, et on peut ensuite partir dans des questions de débat, même des questions d'idéologie un petit peu, ça me dérange pas forcément. Si on a des débats sains, mais je crois que là, on a vraiment failli à notre mission d'explication et d'analyse avant tout. Et je pense que c'est pour ça que ça a provoqué tellement de réactions. Sans doute ne maîtrisais-je pas suffisamment le sujet pour aiguiller les débats comme il le fallait. Je vise un petit peu plus. On va parler comme des startups américaines. On vise un niveau d'excellence avec le Rendez-vous Tech qu'on n'a pas atteint avec cet épisode. C'est évidemment pas la responsabilité de mes invités. Hein. C'est moi qui aurais dû mieux gérer les choses, je pense. Et donc voilà. C'est généralement, j'estime que on réussit à simplifier, à vulgariser les choses de manière satisfaisante. Là, je pense que c'était pas exactement le cas. On était un petit peu à côté de ce but que je me fixe généralement, donc j'espère que, comme on va parler à des sujets un tout petit peu, on va parler de sujet un tout petit peu politique aujourd'hui aussi avec cette histoire de droits voisins à la presse et de Google. J'espère qu'on le fera mieux, je vais essayer en tout cas. Mais bon, je voulais revenir très rapidement sur ce sujet de l'épisode précédent et dire aussi que généralement je réponds aux commentaires avec Mike d'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques épisodes avec Mike et Benoît de Niptech. Sur cet épisode, je me suis abstenu parce que je pense que les esprits étaient un petit peu pas échauffé, parce qu'on s'échauffe jamais vraiment dans notre communauté, mais je pense pas qu'on aurait pu vraiment arriver à quelque chose de suffisamment constructif. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui sont venus mettre des commentaires avec beaucoup de liens et d'explications. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ces sujets, je vous invite à aller lire les commentaires de l'épisode précédent, parce qu'il y a beaucoup de ressources très intéressantes qui pourront vous aider. Donc voilà, très rapidement ce que je voulais dire sur cet épisode. Et je vais donc donner la parole à Jeff et peut-être à Mike aussi, puisque quand même, malgré tout, on a la chance d'avoir deux personnes qui sont plongées dans le monde des startups en dehors de la France, et beaucoup de gens disent que ça va avoir une influence sur les entrepreneurs français et leur volonté de continuer à faire l'entrepreneuriat en France. Et évidemment, on ne couvre pas l'ensemble des dispositions de la loi, mais c'est quand même une impression et une analyse qu'il est intéressante d'avoir. Donc Jeff, toi, tu me disais que tu avais quelques impressions à nous livrer sur ce sujet en général.
Oui, le principe de base, en fait, de la réflexion, c'était que aujourd'hui, l'industrie du capital risque en France est celle qui va être en charge de la montée en charge en quelque sorte des entreprises, c'est-à-dire qu'une fois qu'un entrepreneur a mis en place une idée, il a développé son produit, il va aller chercher quelques business angels pour mettre un peu d'argent, et ensuite il va essayer de lever un tour de financement de quelques millions d'euros auprès des acteurs de la place de Paris. Parce que c'est comme ça que ça se fait typiquement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on augmente de façon énorme les plus-values, la taxe sur les plus-values que payent les VC, en gros, ça les met dans une position où leur business ne fonctionne plus. Nous, aux États-Unis, on va être taxé à 15% sur la plus-value long terme au niveau fédéral, 10% en Californie, donc 25%. Et donc ça veut dire que quand on va mettre de l'argent dans une boîte, beaucoup de ces entreprises vont se casser la gueule parce que c'est très risqué ce qu'on fait par définition, c'est du capital risque, mais quand ça marche, on va récupérer quand même beaucoup d'argent. Et donc, l'équation fonctionne. Et si on commence à être taxé à 60% plus en fait des taxes supplémentaires en tant que VC, on se retrouve dans une situation où on ne peut même plus faire fonctionner notre business et ça n'a même plus de sens de le faire tourner. Et donc, ce que cette loi de financement propose, en gros, c'est d'éradiquer une partie du financement des jeunes entreprises en France, et ça veut dire que les VC vont devoir regarder à aller faire leur business ailleurs. Alors, s'ils bougent à Londres, s'ils bougent à Bruxelles, ils peuvent toujours investir en France, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par définition, tu investis beaucoup plus facilement là où tu te trouves. Et donc, c'est vraiment important d'avoir une industrie florissante du capital risque en France, et clairement, ça va pas dans le bon chemin.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté effectivement sur ce sujet. C'est un petit peu ce qu'on disait au final hein, dans l'émission précédente. La teneur de ce qu'on disait, c'était que ça va faire partir des gens qui investissent. Certains dans les commentaires là encore nous ont dit pour l'investissement les choses sont différentes et puis c'est progressif et etc. C'est peut-être vrai. Hein, faudrait peut-être qu'on investigue la chose un petit peu plus. Par contre, ce qui est certain, c'est que peut-être que c'est simplement une question de problème de communication du gouvernement. L'impression que la France est anti-entreprise à mon sens, peut-être que je me trompe et peut-être que tu vas pouvoir nous le dire, Mike, vu de la Suisse, a clairement été renforcée. Et c'est une impression qui existe depuis un moment. Et là, cette image a été renforcée à tort ou à raison. Nous, on a l'impression que c'est à raison. Certains, dans les commentaires, encore une fois, nous disaient que c'était à tort. Il faudrait évidemment le savoir un petit peu plus. Mais si même des investisseurs ont cette impression, tu me disais, Jeff, que certains de tes camarades qui opèrent en France ont cette impression. J'imagine qu'ils se renseignent. Le résultat est quand même inquiétant, on va dire. Mike, depuis la Suisse, c'était quoi l'impression ?
Oui, bah nous on en avait discuté dans une émission Niptech, et puis on avait un peu discuté. Et puis c'est vrai que directement c'est un sujet qui où il y a
qui éveille les passions.
Oui, exactement. Il y a tout de suite les clivages gauche droite et avec tous les clichés gauche droite qu'on peut avoir. Moi ce que je pense c'est quand je vois la Silicon Valley, puis je vois la facilité dont les startups ont d'obtenir de l'argent et puis de se développer, même si comme Jeff dit, lui qui est un VC, il est conscient que pas tout le monde marche. Et je vois la complexité en Europe et en Suisse aussi d'obtenir de l'argent pour des startups qui sont même très très bonnes, hein, parce que justement on n'a pas cette fluidité du capital, on n'a pas cette facilité, c'est beaucoup plus complexe. Je me dis dommage, donc c'est aussi pas le moment de faire ce genre de choses. On devrait plus regarder un peu ce que font très bien les Américains à la Silicon Valley plutôt que d'essayer de mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, est-ce que c'est vraiment des bâtons dans les roues ou pas? Moi, j'ai pas été dans les détails, donc je sais pas, mais de dehors, ça donne cette impression-là. Oui. Donc, si ça donne cette impression-là, ça, c'est pas forcément positif pour les startups françaises.
C'est pas faux. Bon, c'est sûr que maintenant, on a le son de cloche des gens qui vont être taxés, donc c'est forcément pas positif. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, il y a d'autres problèmes, hein. Si on étend un petit peu le débat à des questions de société, puisque tout est lié, évidemment, les choses peuvent être mises en perspective. Et encore une fois, je veux pas refaire tout le débat, mais c'était intéressant d'avoir cette vision de la chose de personnes qui sont dans ce monde de l'investissement. Il y aurait encore énormément de choses à dire et de contre-opinions à apporter. Donc, on le refera peut-être un jour, mais pour le moment, je veux pas refaire toute l'émission là-dessus. On va plutôt passer à un autre sujet qui, à mon avis, même s'il y a des implications politiques, va mettre un petit peu plus tout le monde d'accord. C'est cette question du droit voisin numérique pour la presse qui a provoqué des réactions assez vives chez Google, dans la presse et dans le gouvernement. Et là donc je vais faire ce qu'on n'a pas forcément bien fait là, il y a deux semaines dans l'épisode précédent, c'est-à-dire expliquer les tenants et les aboutissants du problème. Je vais commencer en expliquant un petit peu la situation avant le projet de loi, qui n'est même pas un projet de loi, qui est une proposition. C'est-à-dire que Google est une force avec laquelle il faut compter sur le web, une force en général parce que c'est une société importante sur le web et en particulier quand on veut exister, avoir une image sur Internet, il faut être référencé et bien référencé sur Google. On connaît bien sûr les techniques de SEO, Search Engine Optimization, qui sont toutes ces techniques qui permettent de remonter dans les référencements de Google. Il y a un des services que propose Google qui s'appelle Google Actualité, qui prend des titres et des petits extraits assez courts de sites de presse et d'articles de sites de presse qui les réunit sur le site Google Actualité, news.google.com ou news.google.fr dans le cas de la France, et qui permet d'avoir un endroit pour récupérer pour voir toutes les informations de l'actualité et d'être redirigé ensuite sur les sites d'où provient cette information. Généralement, on ne ment pas, je pense, en disant que il y a un tout petit extrait sur l'information qui ne suffit pas à avoir vraiment l'information. C'est juste le titre. C'est comme lire les titres comme une sorte de revue de presse. Donc on est dans cette situation du côté du net. Et de l'autre côté, on a la presse qui est dans une posture de plus en plus délicate, comme on le sait tous, bien sûr, qui n'arrive pas à... Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'arrive pas à s'adapter au monde où l'Internet a une telle prédominance, ou si il faut dire que l'importance de la presse ou de l'information en général a été un petit peu réduite ou diluée grâce à Internet. Dans tous les cas, la presse saigne, est en train de saigner et peut-être, on ne peut pas vraiment dire à mort, mais en tout cas, elle est clairement gravement blessée. On a appris récemment, par exemple, que Newsweek, qui est un magazine énorme et super respectable aux États-Unis, va bientôt abandonner sa version papier pour se consacrer uniquement à la version numérique. Donc la presse va pas très bien, hein. Ça c'est une nouvelle pour personne. Donc ce qu'a proposé la presse en partenariat, j'ai envie de dire, avec le gouvernement, c'est d'étendre le droit voisin pour inclure la presse. Que c'est que les droits voisins? C'est les droits voisins au copyright, au droit d'auteur. C'est un système, une mécanique qui permet aux interprètes, par exemple, de bénéficier également de droits d'auteur au même titre que les auteurs. Ça existe dans la musique notamment, dans d'autres domaines culturels. Ce que propose la presse, c'est d'étendre ce droit voisin à la presse. C'est-à-dire, mais d'une manière un petit peu étrange et un petit peu alambiquée pour le moins, leur proposition serait d'utiliser Google pour rémunérer la presse de la manière suivante. Quand Google indexe dans son moteur de recherche, et en particulier dans Google Actualité, quand Google indexe un article de presse, il faudrait qu'il reverse une certaine somme d'argent au site dont provient l'article en question. Et déjà, quand on comprend un petit peu, un minimum, le fonctionnement d'Internet, on comprend que ce type de proposition est quand même, à mon sens, va encore plus loin dans la méconnaissance des mécaniques d'Internet que des dispositions comme Adopi, par exemple. C'est-à-dire l'idée que un site, quand bien même il soit un agrégateur de contenu d'information, ce site doit payer pour inclure un lien vers un autre site. Ça montre vraiment à quel point on ne comprend pas le fonctionnement du net, puisque c'est évidemment le fait de mettre un lien d'un site à un autre, c'est le fonctionnement même du web. S'il faut commencer à payer pour mettre des liens d'un site sur un autre, le web ne peut plus fonctionner. Donc ça, c'est la proposition de loi pour sortir la presse de... Enfin, pas la proposition de loi, encore une fois, le gouvernement n'a pas parlé d'en faire une loi, c'est juste une discussion pour le moment. C'est la proposition qui a été faite. À ça, Google a répondu avec une lettre assez... Moi, j'ai même pas envie de dire une lettre violente, mais c'est une lettre claire qui explique que ça met en danger le modèle d'Internet et que si on étend ce genre de choses, si on commence à penser de cette manière, et que, je vous fais un résumé, ils ne sont pas prêts à jouer à ce jeu-là, et donc, si jamais cette règle était établie, ils décideraient que plutôt que de payer la presse pour référencer leurs articles, encore une fois, ce sont des extraits d'articles, hein, ce ne sont pas les articles complets, donc plutôt que de payer la presse pour faire ça, ils décideraient de désindexer les sites en question, donc simplement de ne plus les faire apparaître dans, on n'a pas les détails précis, mais dans leur moteur de recherche d'une part, et non plus dans le moteur Google Actualité. Évidemment, c'est une menace qui est très très lourde de conséquences, puisque comme on le disait au départ, pour exister vraiment sur Internet, il faut être présent sur Google d'une part, mais sur tous les sites de recherche en général qui fournissent ce service. Quand on recherche quelque chose, ils vont vous fournir le lien qui correspond. Parce que si on n'est pas là-dessus, Google envoie, par exemple, entre 25 et 40% du trafic des sites de presse et des sites en général, 25 à 40% du trafic provient de sites comme Google et d'autres moteurs de recherche. Donc, ne plus être présent sur ces sites, c'est faire chuter énormément le trafic de ces sites qui, évidemment, tirent profit de ce trafic, puisque quand ils travaillent sur un modèle publicitaire, quand les pages sont affichées, ils affichent aussi des pubs et ils gagnent de l'argent sur ces pubs. Donc, moins ils affichent de pages, moins ils gagnent d'argent. C'est logique. Alors, jusque-là, je pense qu'on se comprend plus ou moins. Il y a un rapport de force, il y a certains qui proposent une chose, d'autres qui disent « non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça, on refuse ». Il y a une méconnaissance, à mon sens, du modèle d'Internet, mais on est plutôt dans un jeu de coudes. Là où les choses dérapent véritablement, et ceux qui suivent mon compte Twitter ont vu à quel point ça m'avait mis hors de moi, c'est dans ce qui vient après. Quand Google a envoyé cette lettre au gouvernement et aux organismes de presse, les réactions ont été complètement disproportionnées et je vais jusqu'à utiliser un terme très sérieux que je n'utilise pas souvent dans ce contexte, ont été à mon sens honteuses. Les réactions ont été honteuses. La presse a parlé, par exemple, ils ont utilisé des mots très forts, ils ont dit que c'était un déni de démocratie, que Google se rendait coupable d'un déni de démocratie en menaçant de déréférencer les sites de presse. On a entendu, par exemple, que Google, qui se targuait d'avoir une mission d'utilité publique, Bon, Google, ils disent don't be evil, mais enfin bon, et ils disent on veut organiser toute l'information du monde, mais enfin, ils n'ont pas une mission de bénéfice, de d'utilité publique non plus. La presse a utilisé ces termes-là. Il y a eu un article de Laurent Geoffrin dans le Nouvel Obs qui m'a mis complètement hors de moi, où il dit, vous savez quoi, je vais vous le lire. Je vais vous lire un petit extrait, le début de cet article, parce que ça m'a horrifié, véritablement horrifié. J'attends qu'il se charge, il arrive. Il dit, Laurent Geoffrin, donc, qui est directeur du Nouvel Observateur. Il dit, Google jette le masque. La multinationale américaine, déjà le terme est bien choisi, qui se targue de remplir une tâche d'intérêt général grâce à son moteur de recherche. Je ne sais pas d'où il se targue d'accomplir une tâche d'intérêt général, mais passons. Vient de démontrer qu'elle se soucie comme d'une guigne du droit à l'information. Depuis quand est-ce que Google devrait se charger du droit à l'information en référençant... Bon, bref. Mécontente d'un projet qui pourrait amputer un peu ses bénéfices... Amputer un peu. Qui décide que c'est un peu ou beaucoup? C'est la presse qui va décider combien ils vont être payés, bien sûr. Elle menace tout bonnement de déréférencer, c'est-à-dire de censurer... De censurer. Google menace de censurer le Nouvel Obs parce qu'il ne les référencerait plus. Enfin, on marche sur la tête. Donc... elle menace tout bonnement de déréférencer, c'est-à-dire de censurer, l'ensemble de la presse française en ligne si le gouvernement persiste dans son intention de créer un droit voisin au profit des producteurs de contenu informatique. Je continue encore un tout petit peu. Sur 10 ans, Google a vu son chiffre d'affaires publicitaire augmenter d'1 milliard d'euros environ, tandis que les producteurs de contenu voyaient le leur diminuer d'autant. Et je vais m'arrêter là parce que c'est tout le reste est sur le même ton. Mais là encore, une sorte d'hypocrisie intellectuelle invraisemblable. Google a vu son chiffre d'affaires publicitaire augmenter d'un milliard. Le nôtre a diminué d'un milliard. Donc on va prendre de l'argent à Google. J'en perds mes mots. Cet article m'a estomaqué parce que de deux choses l'une, et les deux choses sont également criminelles. Soit M. Geoffrin est totalement ignorant de la manière dont fonctionne Internet, ce qui est possible mais qui est, comme je le disais, criminel puisqu'il est une des personnes qui est en charge de faire fonctionner la presse en France. Je ne comprends pas qu'une personne à ce niveau de responsabilité ne comprenne pas comment fonctionne Internet. Soit il est... Il comprend bien comment les choses fonctionnent et il est en train de poursuivre un agenda d'un cynisme qui me terrifie. C'est-à-dire que s'il comprend effectivement comment fonctionnent les choses, il est juste, il fait preuve d'une hypocrisie qui est terrifiante. Je vais simplement ajouter avant de vous donner la parole, les gars, que le gouvernement a également deux choses. D'abord, j'ai pris cet exemple, l'article du Nouvel Obs. Il y a eu beaucoup d'autres articles qui étaient heureusement beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus éthiques, je dirais, dans leur traitement de l'information, puisque dans cet article du Nouvel Obs abandonne, à mon sens, toute forme d'éthique journalistique. Notamment un article de Écran, donc le site de Libération, qui était admirable dans son équilibre de traitement. Et d'autre part, le gouvernement a également parler avec des mots, à mon sens, assez mal choisis, en disant qu'il ne comprenait pas que Google s'adresse de cette manière et à un gouvernement démocratiquement élu. Encore une fois, je ne comprends pas ce que vient faire le fait que le gouvernement soit démocratiquement élu ou pas. Si Google n'a pas envie de référencer certaines entités, c'est bien leur problème. On peut aller voir ailleurs si on le souhaite. Donc bon, c'est effectivement pas quelque chose qui m'a plu, vous l'aurez compris, et on comprend bien que dans ce cas-là, dans ce cas précis, on a un problème, à mon sens, avec le gouvernement français. Et là, il s'agit même pas d'une question de droite ou de gauche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque évidemment, on se souvient très bien que la mise en place de la DOPI s'est faite sous un gouvernement de gauche et qu'elle était pas aussi inepte à mon sens, mais très clairement dans la même voie. Disons que à l'époque d'Adopi, on pensait avoir atteint le sommet de l'ineptie. Là, ça va un petit peu plus loin. Bon, j'ai fait un long laïus. J'espère que les choses ont été claires, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y.
Tu peux t'exprimer, Patrick, si tu sens vraiment quelque chose de fort par rapport à ça, n'hésite pas. Hein.
Je pense que je l'ai un tout petit peu fait, là.
Bah, je pense que t'as bien résumé un peu la situation, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc qui m'a fait réagir, moi aussi, c'est de dire, ah bah voilà, en tant qu'industrie, on a perdu 1 milliard de francs ou d'euros ou de dollars, on s'en fout, et donc c'est de la faute de Google, parce que eux, regarde, ils ont fait ils font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, malheureusement, sans entrer dans la politique, c'est le côté très français des choses, en disant, la taille du gâteau est fixe, et donc pour que quelqu'un gagne, il faut que moi je perde. Plutôt que de dire, faisons en sorte que la taille du gâteau soit plus grosse. Mm. C'est le point de vue américain. Let's make the pie bigger. Faisons en sorte que le gâteau soit plus gros. Et donc, même si c'est un problème que je veux bien reconnaître, c'est-à-dire qu'il faut que la presse en ligne trouve un moyen de rémunérer son service, puisque c'est une industrie de service. Clairement, à ce jour, il y en a certains qui se sont adaptés et qui font pas mal, c'est les gens qui font du online only, mais les éditeurs qui ont de l'impression, donc du papier, clairement ont des soucis parce que, bah, en gros, même s'il y a une grosse partie de la pub qui est toujours qui est pas encore en ligne, c'est en train de bouger en ligne, etc., etc. Et donc c'est en gros c'est pas Google, c'est Internet. Et donc oui. Ce que la presse en France est en train d'essayer de faire, c'est de trouver un moyen de taxer Internet. Et on a déjà été là, on sait que c'est pas une bonne idée. Et donc le jour où Google décide de virer complètement la presse française de son index, bah, je peux te dire que le revenu de pub, ils vont encore chuter, parce que clairement, comme tu le disais, plus il y a des pages vues, plus Google envoie du trafic, plus ils vont faire de l'argent. Et donc, leur calcul est complètement faux.
Bah, c'est ça qui est le pire, en fait. C'est que Google, effectivement, leur amène du trafic et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Entre parenthèses, tu parles de la question du fait de taxer Internet et de taxer Google. Il y a un autre débat que certains ont un petit peu mélangé, qui est la question de faire, de taxer Google en général et certaines sociétés qui opèrent sur Internet, puisqu'il y a effectivement un problème dont je ne sais pas comment on peut le résoudre, mais le fait que certaines sociétés qui offrent des services en France en étant basées ailleurs, ne sont pas taxés du tout sur le territoire français. Donc ça, c'est effectivement un autre problème qu'on pourra explorer à un autre moment, mais il est clair que là, on ne parle pas de ce problème-là. On parle uniquement de la question de faire payer Google pour référencer certains sites.
Moi, je trouve vraiment que quand on regarde la problématique, elle est vraiment, ça vient vraiment d'une méconnaissance. Moi, j'utilise pas mal Google News pour les news en Suisse, même je vais en France, aux US pour avoir des points de vue un peu différents, et je vois pas en quoi ça amène plus de trafic que ça en enlève. Moi, je pense que finalement le métier de la presse, il a commencé à se dégrader pas juste avec l'avenue de l'internet, mais ça s'est dégradé déjà avec l'avenue des journaux gratuits. Ils avaient plus d'argent, comme les 20 minutes et compagnie. Après est venu Internet, où c'est devenu encore plus gratuit. Puis c'est vrai que finalement, ils se retrouvent là avec les mêmes coûts qu'avant, parce qu'ils se sont pas adaptés. Un peu comme la télévision actuelle face aux podcasts qui sont faits un peu moins chers et souvent de très bonne qualité. Et je trouve qu'ils, voilà, ils se sont pas adaptés. Puis maintenant, ils sont face à ce problème. Aux États-Unis, c'est vrai. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y en a certains qui fonctionnent. Il y a quoi, le Wall Street Journal? Pourquoi? Parce que les gens, ils sont prêts à payer une cotisation et ils apportent, je sais pas, quelque chose de spécifique.
C'est une source d'information qu'il est difficile de trouver ailleurs, en fait. Exactement. Donc c'est peut-être un cas un peu particulier.
Ouais. Mais aussi le New York Times. Alors c'est clair, le New York Times, c'est une institution, c'est énorme, c'est si. Mais quand on entend que voilà, il y a plus d'éditions, il y a plus de downloads web ou sur leur app que papier, je trouve génial. Et il semblerait qu'ils arrivent à trouver un business model qui fonctionne. Alors, moi, je trouve ça tellement absurde. En plus, ils ont eu l'exemple, je crois que c'était en Belgique, hein, que ça s'est passé au mois de juillet, où la Belgique avait essayé de faire la même chose, et ils les ont référencés suite à une décision de justice, 5 ou 6 journaux belges, et bien sûr, ils ont vu leur trafic chuter, ils sont revenus discuter, et voilà, ils ont été indexés dans Google. Donc, ils ont vu par eux-mêmes que ça fonctionnait pas.
C'était le cas en Belgique en 2011. Effectivement, ils ont été désindexés pendant 3 jours, puis ils ont trouvé entre guillemets, un accord dont on ne connaît pas les détails. C'était le cas pour Associated Press aux États-Unis en 2010. Il y a récemment la presse brésilienne qui s'est retirée de Google News aussi, donc on va voir comment ça va se passer. Mais à vrai dire, pour moi, si la presse décide finalement de qu'ils voudraient être payés pour mettre des liens, je trouve ça abracadabrant, mais admettons, ils décident qu'ils voudraient être payés, Google décide de les retirer, ça serait négatif pour la presse française, mais admettons que ça soit leur choix. Moi, ce qui me hérisse le plus, c'est que la presse dit « Ah ben non, on veut être payé et vous n'avez pas le droit de nous déréférencer. » Donc, il faudrait qu'ils soient obligés de les référencer et obligés de les payer pour les référencer. C'est le cercle, c'est même pas un cercle vicieux, c'est un cercle d'ineptie, quoi. Il y a d'autres problèmes aussi qu'il faut évoquer, je pense. C'est les questions sur de liberté d'expression. Parce que le fait de mettre un lien, comme le disait ma compagne qui est juriste, donc qui connaît ces questions, qui s'y intéresse, mais le fait de mettre un lien, de pouvoir mettre un lien à un site est essentiel pour la liberté d'expression. C'est-à-dire que pour pouvoir commenter quelque chose, il faut que tu dises d'où ça vient. Il faut que tu puisses faire une citation, une quotation en anglais. Et évidemment, la presse va te dire « Ah mais oui, mais non, c'est uniquement pour Google parce qu'ils ont tel et tel truc. » Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va décider que Google doit se plier à ce genre de rôle, à ce genre de choses, et pas Yahoo ou Bing? Et du coup, bon, ok, c'est des moteurs de recherche, mais si c'est des moteurs de recherche, quid des gens qui ne sont pas des moteurs de recherche, mais qui font, par exemple, un site où je répertorie toute l'actualité sur un sujet précis? Enfin, ça a des conséquences, là encore, qu'on n'imagine pas, qu'on ne puisse pas imaginer sans avoir les poils qui se hérissent. Et j'irais même jusqu'à dire qu'a priori, l'Union européenne ne pourrait pas laisser faire une chose comme ça, ne serait-ce que pour ses conséquences sur la liberté d'expression. D'ailleurs, le gouvernement français a déjà commencé à calmer un petit peu le jeu. Il me paraît impossible que cette chose aille plus loin. Le gouvernement rencontrait Google vendredi. Peut-être qu'ils ont eu des discussions productives. Mais pardon, Mike, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, il faut savoir que en Suisse, j'ai lu des articles disant que dans la presse, eux, ils sont d'accord avec cette opinion-là de taxer Google. Donc, il n'y a pas seulement en France. Je pense qu'il y a beaucoup de journaux en Europe qui sont d'accord parce que finalement, ils savent pas faire de, ils n'ont pas encore trouvé le modèle comment générer de l'argent. C'est plutôt ça qu'on devrait se poser comme question. Oui. Mais un truc hallucinant, c'est comment on peut demander à Google de payer alors que si on va sur le site de news.google.com ou FR, il n'y a pas de pub.
Oui. Donc, oui, en plus, oui.
En quoi ils pourraient payer? Parce que, ok, ils font de la pub à travers les recherches, mais sur le site actualité, il n'y en a pas.
Oui, oui, effectivement. Il y a aussi une autre avenue intellectuelle à explorer qui est, ok, donc effectivement, Google a ces aspects-là, mais si on commence à taxer Google, pourquoi ne pas taxer les constructeurs? Par exemple, Apple, Samsung et les autres constructeurs qui créent des iPads, qui fait qu'on peut lire sur les iPads et donc, enfin, des iPads ou des tablettes, et donc on n'achète plus de la presse. Effectivement, si Google fait de l'argent, je peux vous assurer qu'Apple en fait beaucoup plus. Donc, on pourrait aller piocher chez Apple aussi. Pourquoi pas? On peut aller piocher partout. Pourquoi pas? On utilise de... Et là, on rejoint un petit peu les arguments un petit peu spécieux de l'industrie du disque, qui cherche à taxer Internet dans son ensemble depuis un moment. Et on peut se dire, bah, pourquoi ne pas taxer les fournisseurs d'électricité, par exemple? Puisque pour utiliser ces produits et ces services, on utilise de l'électricité aussi. Les fournisseurs d'électricité font de l'argent sur ces contenus. Bref, je pense qu'on... Je vais m'arrêter aussi, là parce que... Vas-y.
Et
bien.
En plus, si tu regardes, si tu dissèques la proposition, qu'est-ce qui va se passer? Imagine que tu mets en place cette loi. En gros, tu vas te retrouver avec des tonnes de gens qui vont générer du contenu pourri, mais qui sera bon sur le côté SEO, donc Search Engine Optimization, de manière à ce que Google les référence et les paye.
Bien sûr.
Et donc, ce sera pas la valeur du contenu qui comptera, ce sera... est-ce que la boîte est vraiment super forte à créer du contenu référençable? Et ça, on sait que ça amène à une chose, c'est le pourrissement d'Internet, parce que tu te retrouves avec de la merde qui est référencé.
Bien sûr, c'est effectivement un autre aspect que, qu'on n'a pas évoqué, mais moi ce que je me disais, c'est si jamais une loi de ce type passe, je sais ce que je vais faire demain. Je quitte mon boulot et je vais faire un site de news pourri spameux. Bon.
Mais une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que justement ces journaux peuvent se faire de l'argent ? Donc c'est vrai qu'on voit les ads, les display ads ne fonctionnent pas. Donc ça, tout le monde le dit. Même Facebook n'arrive pas à générer assez d'argent. À part pour Google, qui les crée ou qui les met à disposition, ça ne marche pas beaucoup pour ces journaux. Donc comment est-ce que eux peuvent se faire de l'argent ? La pub, ce papier, elle marche de moins en moins. Moi, j'avais entendu un truc qui était assez cool que j'aurais été prêt à utiliser. C'était des mini dons. C'était un service où on pouvait cliquer et automatiquement
Flatter.
Donner deux, trois, oui, c'était ça, exactement, Flatter, ouais. Où on pouvait donner deux, trois cents par article. Et je trouvais ça assez pas mal comme idée.
Mais, ouais, bien
c'est
sûr.
C'est vrai qu'il y a, j'ai pas vu de bouton Flatter sur beaucoup de sites.
Non, c'est vrai, Corben en a un. Il y a quelques personnes qui utilisent ce type de produits, mais c'est des produits très intéressants, hein, qui pourraient effectivement fonctionner. Mais, d'une part, je pense que les décideurs de ce type d'industrie ne sont pas assez au courant de ces questions pour penser à des solutions de ce type. Et d'autre part, je pense que de toute façon, cette proposition-là ne verra pas le jour. Il est clair que c'est pas viable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je voulais dire que j'ai un petit peu comme sur Adopi, j'ai eu des réactions tout à fait unanimes sur, j'ai posté sur Google+, Facebook, Twitter. Les gens sont généralement assez d'accord, quel que soit le bord politique dont ils sont. Comme je le disais, c'est comme pour Adopi. Les gens sur Internet qui comprennent la manière dont ça fonctionne, il y a une condamnation unanime de la loi d'une part et de la réaction scandaleuse dont je parlais notamment de monsieur Laurent Geoffrin qui me laisse penser que il sera difficile de voir la chose passer en tout cas dans ces termes. Et puis de toute façon effectivement Google a l'option atomique qui est le déréférencement et là ils vont comprendre très très vite.
Et ils le feront.
Et ils le oui, font, bien sûr, mais ils l'ont fait. Oui.
S'ils le font pas, de toute façon, ça bousille complètement leur business oui. model partout dans le monde. Et donc, ils le feront, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que dans ce contexte, la presse française, la langue française et la France, ça a plus à perdre qu'autre chose.
C'est
Parce
sûr.
Que, comme d'habitude, enfin, je veux dire, que ce soit ça, que ce soit la taxation des entrepreneurs, machin, je veux dire, ils sont complètement... En gros, tout le monde regarde vers le futur et la France, on a l'impression qu'il... Parce qu'autrement, je veux dire, c'est très simple. Interdisons Internet et remettons le Minitel. Hein ? Parce que le Minitel, c'était cool, on pouvait le contrôler, c'était à la merci
payant.
De France Télécom, c'était payant. Je veux dire, allons-y, hein, n'hésitons pas.
Ce qui me frustre un petit peu, c'est que le gouvernement qu'on a aujourd'hui est plein de gens qui sont jeunes et dynamiques et qui devraient... comprendre ce genre de choses et ça me frustre beaucoup parce que bon même si on le sait hein, dans cette émission je suis plutôt à tendance de droite j'ai quand même ça veut pas dire que je condamne systématiquement tout ce que fait l'autre bord et j'espère que c'est toujours le cas j'aimerais que ça soit le cas pour tout le monde et tout le temps et j'avais quand même pas mal d'espoir notamment dans le domaine du net quand j'ai vu ce gouvernement être mis en place. Et je suis vraiment frustré. Est-ce que c'est des questions de lobbying? Est-ce que c'est des... Bon, bref, on ne sait pas, mais c'est dommage en tout cas. Et effectivement, comme tu le dis, Mike, la chose la plus dommage, c'est que toutes ces énergies ne soient pas consacrées à la réflexion pour de nouveaux business models et de nouvelles manières de faire vivre leurs services qui, évidemment, personne ne le conteste, sont incroyablement importants. Une presse saine et énergique est essentielle pour la démocratie. Donc, bon. On parlait de liberté d'expression tout à l'heure et on continue avec un sujet éminemment tech et éminemment politique. C'est la question du hashtag un bon juif qui a fait pas mal de bruit il y a, ces 10 derniers jours. Le hashtag donc un bon juif en un mot est un hashtag qui a eu entre parenthèses du succès sur Twitter avec des commentaires que je vous épargnerai mais qui étaient antisémites et non seulement antisémites mais de très mauvais goût. des questions sur, enfin des choses qui plaisantaient sur la question de, évidemment, de la Shoah, des camps d'extermination, etc. Juste pour donner une illustration, l'un de ceux que j'ai vu passer, c'était un bon juif, c'est un tas de cendres. Ce genre de choses. Donc, au-delà de la question du bon goût de la chose et de la question du fait que... alors, il y a beaucoup de gens qui disaient, voilà, on peut plus rigoler sur certaines choses. Enfin, voilà, avec les Juifs, on peut jamais rigoler. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient clairement pas tout à fait recommandables, qui tenaient ce genre de discours. D'une manière générale, j'ai plutôt beaucoup vu de condamnations... du mouvement que de gens qui disaient oui c'est bon on peut rigoler parce que ça allait effectivement assez loin et là je pense qu'on n'était plus du tout dans des questions de d'humour ou de comique mais la question qui nous intéresse réellement c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que admettons même, et la question est discutable, admettons même que ça soit quelque chose de si peu recommandable qu'il faudrait le faire disparaître, entre guillemets. Donc c'est un hashtag qui arrive en trending topic sur Twitter, en France en l'occurrence, et ça choque la population. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment ? Peut-être qu'une chose qu'il est possible de faire, c'est de se dire, on va initier une action légale, ce qui est possible, et demander à Twitter de le retirer ou de le bannir, le blacklister des trending topics. Mais est-ce qu'il faut ensuite se dire, on va censurer le hashtag en question, même dans les tweets. Est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un le tape, on va le remplacer par autre chose? Est-ce qu'on peut plus faire de recherche dessus? C'est vraiment une question qui techniquement est complexe parce que nous, on est bien gentils à se dire oui, voilà, vous êtes sympa la presse et vous êtes sympa l'industrie de la musique, mais Internet, ça marche pas comme ça et on peut pas faire telle ou telle chose que vous voulez faire. Ça a aussi des conséquences quand il y a des choses qui nous préoccupent légitimement. En l'occurrence, est-ce que on aurait le droit de censurer un hashtag? Est-ce que ça ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression? Bon, en France, on a des lois contre l'incitation à la haine raciale. Donc, peut-être que par ce biais, on pourrait essayer de censurer, entre guillemets, s'il y a une procédure légale dûment suivie, de censurer ce type de contenu. Mais est-ce que c'est techniquement faisable? Donc c'est une question qui est pas simple. Et puis même au-delà de la question de la technicité, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que le hashtag ne va pas se transformer en autre chose? Au lieu d'un bon juif, tu transformes en un bon feuge et du coup ça devient une sorte de whack-a-mole, vous savez, les jeux où il faut taper les marmottes et tu dois trouver tous les différents hashtags. Enfin, vous avez une opinion sur la chose, vous?
Moi, je pense que finalement, Twitter, ils l'ont montré, hein, par le printemps arabe et tout. C'est quand même une plateforme qui est utilisée pour la liberté d'expression. C'est clair que certains gouvernements ont aussi demandé à Twitter de enlever certains hashtags, d'arrêter des informations sur certaines personnes et d'autres, ce qui n'avait pas été fait par Twitter. Donc, Twitter a une tradition qui, elle préfère ne pas aller dans un pays plutôt que de devenir, de devoir, si on veut.
Censurer, oui.
Censurer quelque chose. Mmh. Elle l'a fait en Chine, par exemple. Moi, je trouve que, voilà, c'est sûr, c'est pas du tout de bon goût. Moi, ce qui m'hallucine, c'est comment une personne peut, faire des gags comme ça sur Twitter alors qu'elle sait que c'est public et ça peut l'impacter toute sa vie. Peut-être les gens, ils savent pas que, ça pourra être vu, à tout jamais. Donc ça m'étonne toujours comment les gens peuvent raconter n'importe quoi en public. Mais après, il semblerait, là, je suis en train de lire un article de Huffington Post ils ont pu bloquer certains comptes, donc ils bloquent pas, ils enlèvent pas les tweets, mais ils bloquent certains comptes qui certains propos antisémites.
Alors effectivement, il est possible de, évidemment, hein, pour Twitter de bloquer des comptes. Ce qu'ils ont fait récemment, c'était à la demande du gouvernement d'un des Länder allemands, ils ont censuré un compte d'un groupe néo-nazi en Allemagne et ils ont utilisé une fonctionnalité qu'ils avaient mis en place il y a quelque temps, qui est qu'il est censuré dans le pays où la demande a été faite. C'est-à-dire que si on est en Allemagne et qu'on cherche un tweet de ce compte-là, on va voir un message qui dit « Ce tweet est censuré à la demande du gouvernement, blablabla ». Donc, ça permet à Twitter, en fait, comme tu le disais, Twitter est important pour des questions de liberté d'expression. Si, en l'occurrence, pour le hashtag un bon juif, je pense qu'on serait à peu près tous d'accord pour dire que ça sera pas une grande perte s'il disparaît. Mais par contre, si on fait ce genre de, enfin avec ce genre de précédent, on peut tout à fait imaginer qu'un gouvernement un peu plus répressif, ou même qui soit limite, se mette à censurer des choses qui ne sont pas forcément souhaitables de censurer. Et en l'occurrence, Twitter a la capacité de le censurer dans le pays, mais le reste du monde le voit toujours. Donc c'est une semi-censure qui permet de vérifier ce qui est censuré, ce qui est plutôt une bonne approche à mon sens. Jeff, toi, t'as une idée sur la chose ou...
Bah, clairement, c'est outrageant que des connards puissent faire ce genre d'allégations en pensant que c'est une blague. Je pense que d'un point de vue américain, c'est la liberté de parole, le free speech, c'est dans les règles de la Constitution. Quand je suis devenu américain, j'ai dû apprendre en fait ce que ça voulait dire, et donc c'est le premier article. Et donc, par définition, tout un chacun est libre de s'exprimer et de d'assumer en fait les conséquences de son expression. Et donc le connard qui blague sur un bon juif, après si jamais il se retrouve en justice attaqué par des personnes ou des fondations qui essaient de faire respecter le droit et l'image des juifs, ce sera sa responsabilité. Et
when you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Malheureusement, dans certains cadres, ils pourront dire « free speech, je dis ce que je veux ouais. ». Mais c'est comme ça. Et je pense que Twitter, qui fondamentalement a essayé depuis le début d'avoir une éthique très « free speech », en empêchant autant que faire se peut les gouvernements de récupérer les infos sur les comptes des gens qui divulguent des choses, etc. Je pense que c'est quelque chose de très très difficile à gérer, et je pense qu'ils n'ont pas fait un mauvais boulot depuis le début, quoi.
Ce qui serait intéressant, c'est de se dire finalement pourquoi attaquer Twitter. Il pourrait porter plainte, par exemple, en France, devant un tribunal, sur certains comptes qui ont posté des choses insultantes, directement devant les tribunaux français. Pourquoi passer à travers Twitter? Ça serait peut-être une meilleure solution.
C'est vrai que l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, a tout de suite contacté Twitter avec des termes assez forts pour essayer de bloquer ces contenus. Et là encore, bon, je sais pas en l'occurrence s'il faut bloquer sur Twitter ou s'il faut poursuivre les personnes directement, parce que bon, il y en a des centaines. C'est le problème auquel est confrontée l'industrie du disque et celui du cinéma, hein. Il y en a des centaines, tu vas pas te mettre à attaquer tout le monde. Donc bon, c'est un débat intéressant qui prendrait sans doute un petit peu plus de temps. Je vais faire un petit peu l'impasse. Je voulais parler de Violent Acres, le combat entre Adrien Chen de Gawker et Violent Acres de Reddit. Reddit qui a aussi, on parle souvent de ce site, hein, qui est une sorte de site où n'importe qui peut proposer des liens et ils sont agrégés, on vote dessus, c'est une sorte de digue. Adrien Chen, donc un journaliste entre guillemets, de Gawker, qui a révélé l'identité d'un des gestionnaires d'un des subreddits, donc qui ne fait pas partie de la société, qui avait des contenus, qui mettait en ligne des contenus et qui gérait des sortes de forums, assez limite, des trucs comme creep shots, c'est-à-dire des photos bizarres, limite de stalkers, de types qui suivent les nanas dans la rue ou qui prennent des photos de chez elles, ce genre de choses. Un type qui est finalement un petit peu un troll professionnel, et donc il a révélé son nom et son prénom et son adresse et son identité sur le site. Donc là encore, au-delà du fait que ce qu'il fait est ou n'est pas critiquable, est-ce qu'on a le droit de révéler son identité, ou le droit certainement puisque c'est lui qui l'a fait, mais est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie, ou enfin ça posait plein de questions. Il y avait aussi la question du protectionnisme entre guillemets contre les sociétés Huawei et ZTE, avec plusieurs sociétés américaines et certains organismes américains qui ont exprimé des inquiétudes par rapport au fait que ces fournisseurs de matériel qui aiguillent Internet sont chinois, et donc est-ce que ils ouvrent volontairement des avenues pour le gouvernement chinois de récupérer ou d'écouter le trafic qui passe par leur matériel. Et ils savaient pas vraiment, on a découvert qu'il y avait certaines vulnérabilités dans ces routeurs et dans ces matériels, mais est-ce qu'elles sont volontaires ou pas? On sait pas. Donc est-ce qu'il faut malgré tout se dire bon bah je prends pas le risque et je vais plutôt acheter d'une autre société qui est américaine ou européenne ou ce que c'est? Ou est-ce qu'il faut être un petit peu plus ouvert avec Huawei notamment, qui est une société internationale qui peut pas, enfin en tout cas c'est leur discours, qui ne peut pas se permettre ce genre d'excentricité parce que ça remet en question toute leur crédibilité, mais leur CEO, leur président est un ancien du Parti communiste chinois, donc enfin bon, c'était des questions là très très intéressantes dans lesquelles on n'a pas forcément le temps de se plonger. Je vais vous juste si vous avez un commentaire sur la chose, et puis on va avancer.
Moi je trouve drôle parce que ça me fait toujours rire les Américains qui critiquent des boîtes chinoises alors que Microsoft était les premiers à permettre au gouvernement de pouvoir s'introduire dans des computers, que on entend là sur Skype, alors on sait pas si c'est des rumeurs ou pas, mais Skype appartient à Microsoft, que avec leur dernier update, il y a une backdoor possible, et puis on sait que c'est tout à fait possible que la NSA est américaine et non chinoise, hein, et donc oui. Le plus grand espion online est américain. Alors moi ça me fait toujours rire quand j'entends ça. Alors je pense que communiquer actuellement, je pense pas que c'est possible de communiquer de manière privée. Il faut constater et puis se dire, ben voilà, tout ce que je dis sera entendu. Comme ça, on évite.
Bah, disons que le gouvernement américain est un peu plus responsable et censé être, on est censé pouvoir le tenir responsable dans une certaine mesure, plus que le gouvernement chinois. Et ce que craignent les Américains, c'est que il y ait notamment de l'espionnage industriel qui soit fait par ces biais par le gouvernement chinois, et donc les entreprises chinoises qui ensuite fassent des copies et ce genre de choses. Mais bon, c'est sûr que c'est un petit peu on peut comprendre que ça soit un peu fort de café pour les Américains de dire
ça.
Je
peux te dire comment elles font, les entreprises chinoises, pour copier les boîtes. En fait, pour avoir parce qu'on est en train d'essayer de mettre un produit en Chine, et pour mettre un produit en Chine, il faut avoir une acceptation qui s'appelle CCC. Et cette acceptation pour pouvoir justement importer un produit en Chine est tellement énorme, elle demande, ils vont tellement dans les détails que les Européens et Américains demandent jamais, donc ils demandent carrément les plans de l'usine où tu fabriques le produit, ils demandent toutes les choses que jamais tu peux imaginer, donc voilà la manière de copier les produits. Oui. Et je pense
donc
que
ils
n'ont
pas besoin d'espionner
les...
D'accord, Jeff, t'as une chose à dire là-dessus?
Bah, je rejoins un peu. Pas. Ouais, je rejoins un peu Mike. C'est un peu. On fait ça, mais nous, on est ok. Mais si eux le font, ça va pas être bien.
Ouais. Disons qu'il y a aussi.
Vas-y.
Il y a aussi une autre chose importante à rappeler, c'est que Cisco, qui est l'un des plus grands fournisseurs de matériel pour le routage d'Internet, est une société américaine. Donc ça les arrange pas mal aussi si tout à coup on se dit, bon, on va préférer pas acheter des produits chinois.
Ouais, bien sûr. Et puis bon, faut quand même se rappeler que la dette américaine est en grande partie détenue par les Chinois aussi. Donc bon, je veux dire, non mais c'est vrai. C'est le jour où ils... Bon alors voilà, on voudrait récupérer notre fric. On peut avoir les clés. In fine, tu as. Ouais, en fait, va falloir que je m'excuse puisque on est arrivé à l'heure et j'ai mon prochain rendez-vous qui vient d'arriver. Mais pour finir, le problème, c'est que tu te demandes toujours quel est le centre d'intérêt ou le lobby qui a essayé de lancer ce débat, parce que par définition, oui, c'est vrai, pourquoi pas, ça existe, mais qui en fait est celui qui bénéficie de ça? Alors est-ce que c'est Cisco qui a été dire ah oh, bah tiens, si on pouvait avoir un petit hola mis sur le matos de ces gus là, nous on en vendrait plus parce qu'ils sont en compétition. Je veux dire, il y a quand même des centaines de millions de dollars qui sont dépensés par les différents groupes de lobby, les entreprises, etc. C'est pour une bonne raison. Donc
bon
voilà, voilou.
Bah très bien. Donc t'as pas un mot à dire sur Windows 8 dont le lancement est cette semaine avant de filer? Un mot?
Windows what? Windows 8, c'est un truc qui tourne sur mon Mac, ça? Non, en fait, mon PC est en RAD, et donc je viens juste de le récupérer, et donc on va voir si il est compatible avec Windows 8 et si je peux le faire tourner. J'avoue que entre mon MacBook Air et mon MacBook Pro, je passe 90% de mon temps, ou 90% de mon temps sur des Macs, donc on va voir.
D'accord. Hein. Eh ben, on verra tous, puisque la sortie est imminente. Jeff, merci d'avoir été là.
Merci à
bon
tous.
Bon courage pour ta journée de boulot. Et puis, on se revoit très bientôt.
Ça marche.
@Jeff sur Twitter. Merci, Jeff.
Salut.
Ciao. Donc, Windows 8. Alors, je vais, on va pas forcément parler de Windows 8 est-il bien ou pas. Moi, j'ai suffisamment professé mon amour pour cet OS. Si vous avez écouté This Week in Tech, qui est une émission du réseau Tweet anglophone, hein, comme l'indique mon accent délicieux, vous m'aurez peut-être entendu la semaine dernière pousser une sorte de coup de gueule contre l'industrie la presse tech en général, qui est incroyablement
parti pris.
Bah oui, un petit peu. Non, mais presque. J'ai pas envie de dire hypocrite parce que je pense pas que ça soit à ce point-là, mais qui est détaché de la réalité de la situation. Parce qu'ils disent tous ah oui, mais Windows 8, bon, c'est difficile à utiliser, ça change trop par rapport à Windows 7, et les gens normaux entre guillemets, est-ce qu'ils vont comprendre? Non, mais Windows 7 ça marche très bien, pourquoi changer, machin. Et en plus, vous savez, un Windows sur deux il est pourri. Il y avait ME, Windows Vista, ils ont pas marché. Donc là, Windows 7 il était bien, Windows 8 il sera pas bien. Enfin, là, ça me... Bon, c'est pas autant que cette histoire de presse contre Google, mais ça m'horripile à un point, parce que Windows 8 soit bien ou pas, à la limite, on peut avoir une opinion là-dessus, mais le fait de ne pas prendre en compte à quel point Microsoft est courageux de prendre une décision aussi radicale, et à quel point ils ont besoin de prendre une décision aussi radicale, c'est à mon sens assez surprenant, quoi, parce que on se rend tous compte que l'informatique ne fonctionne pas. Je m'explique. L'informatique, il y a 30 ans, on se disait bon, le monde entier va utiliser des ordinateurs dans quelques années. Et évidemment, c'est le cas, mais les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Les gens ne savent pas installer un programme, en dehors des gens qui écoutent cette émission, hein, bien sûr, et des geeks en général, mais les gens savent pas installer un programme, ils savent pas maintenir leur ordinateur à jour, enfin bref, vous savez comment fonctionne votre tante et votre mère et votre grand-mère et votre grand-père et votre oncle et votre votre père et votre grand-père. Je vais pas être sexiste, mais à chaque fois que vous allez leur rendre visite, ils vous demandent d'installer 60 000 trucs. On a tous connu ça. Donc l'informatique ne fonctionne pas, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Donc avec l'arrivée des smartphones et de l'iPad et des tablettes et d'Android, on est en train de se rendre compte que les gens vont jamais apprendre. Ils savaient pas utiliser un magnétoscope encore il y a pas si longtemps. Ils savent toujours pas d'ailleurs utiliser un magnétoscope. Ils vont certainement pas apprendre à utiliser macOS ou Windows. Même si macOS est un petit peu plus simple, même si Windows est facile à utiliser une fois que tout est installé. Donc, les tablettes et iOS et Android montrent qu'il faut quelque chose de plus simple. Et Microsoft voit ça, ils se disent l'informatique de demain, ça va être la simplicité pour 80% des gens. Il faut qu'on soit là-dessus. L'informatique de demain, ça va être les tablettes, les devices, et il faut qu'on soit là-dessus. Et ils réussissent à faire quelque chose que j'aurais cru impossible, qui est de faire tout fonctionner d'un coup dans Windows. À mon sens, je trouve que ça marche. Si on trouve que ça marche pas, c'est un autre débat. Mais moi, je trouve que ça marche. Et personne ne reconnaît à Microsoft ce courage, et je trouve ça dommage. Bon, voilà.
Moi, ça me fait toujours rire ce débat un peu Windows Mac, parce que finalement beaucoup de journalistes ont des Mac, mais ça veut dire qu'ils travaillent pas en entreprise. C'est que j'étais en train de regarder les market share de Windows au niveau des operating systems et je voyais qu'ils avaient 68% de market share. Apple, on a moins de 17.
Mais tu sais, pour moi, c'est même pas une question entre Windows et Mac, c'est une question entre l'ancienne informatique qui est un OS. Complexe comme les Windows aujourd'hui ou macOS même qui à mon sens est relativement complexe et la nouvelle informatique qui sera pas pour les vrais geeks hein, qui continueront à avoir Windows ou Mac mais la nouvelle informatique qui est un iPad super simple ou un Windows 8 version nouvelle UI ou Android qui sont beaucoup plus simples à utiliser.
Bon, mais, moi, bon. Ce que j'ai entendu dire, je l'ai pas testé moi-même, donc je peux pas dire. J'ai entendu dire qu'il semble un peu plus complexe que Windows 7 et qu'il est fait plus pour des tablettes que pour un ordinateur, enfin un portable ou une station standard.
Bah moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il réussit à allier les deux. Et je pense que chacun doit se faire sa propre opinion hein, en l'essayant. Moi, je trouve que passer un petit moment d'adaptation qui est forcément nécessaire parce que quand on change les choses, même si au final c'est mieux, pendant un moment, il faut apprendre un petit peu à la nouvelle manière de l'utiliser. Passer ce moment d'adaptation, pour moi, ça fonctionne très très bien. Mmh. Et ça fonctionne même... Pour moi, je pense que je préfère... Il faudra que je le teste un petit peu plus, mais je préfère Windows 8 à Windows 7 parce qu'on a ce côté super simple quand on le veut et on a ce côté complexe quand on le veut. Donc, bon, bref. Mais en ça, même temps, chacun le testera dans les jours à venir. Pardon.
Mais je comprends, on dit toujours, oui, est-ce que les sociétés vont bouger à Windows 8? Mais c'est vrai.
Mais les sociétés n'ont même pas besoin de bouger à Windows 8. C'est pas pour eux.
Exact, c'est ça qu'il faut se dire, parce que finalement, elles peuvent pas changer à chaque version. C'est comme dans un ERP, on va pas changer de chaque version. Ça prend un tel travail, c'est tellement énorme, que c'est normal qu'elles changent pas tout le temps, je pense.
Après, mais en même temps, moi je me disais, je pensais à l'origine, je me disais, bon, ils auront pas besoin de bouger, et peut-être qu'il ne faudra pas qu'elles bougent. Mais quand je l'ai utilisé, je me suis rendu compte que il est tout à fait possible d'utiliser Windows 8, quasiment comme Windows 7. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir le menu démarrer, qui n'est franchement pas la chose... Enfin, c'est pas la chose la plus invraisemblable qu'on ait connue dans le monde. Hein. Le menu démarrer, c'est un menu. Donc, au lieu d'avoir ce menu démarrer, on a l'écran démarrer. C'est la seule différence. Si on veut utiliser Windows 8 comme Windows 7, c'est tout à fait possible sauf qu'on ait un écran au lieu d'un menu pour le truc démarrer. Donc, bon, bref. On reparlera beaucoup du Windows 8 parce qu'il est là pour rester, je pense, et on verra si d'autres sont d'accord avec moi en l'utilisant. Mais en attendant, on a eu des infos importantes sur la Surface et sur d'autres choses qu'on va vous relayer. Le prix des Surfaces, pour la Surface, donc la tablette de Microsoft, 32 gigas, elle coûte $499. 32 gigas plus la Touch Cover, donc la couverture qui sert de clavier touch en même temps, $599. Pour 64 gigas plus la touch cover, $699. Donc on est effectivement dans des tarifs qui correspondent à peu près aux tablettes qu'on connaît aujourd'hui. Cette Surface, c'est la Surface avec Windows RT, donc qui offre uniquement la nouvelle interface et donc pas le desktop classique, uniquement l'interface X Metro. Une chose qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens ont dit « Ah oui, mais il n'y a pas de 16 gigas. » Moi, j'aurais voulu qu'il y ait une version 16 gigas encore un peu moins chère, parce que là, on est juste au prix correct. À mon avis, s'ils avaient fait un produit à $399, ça aurait été hyper intéressant. Là, c'est juste un tout petit peu trop cher à mon goût, surtout qu'on commence à avoir des bonnes tablettes Android à des prix qui sont en dessous des $200. On imagine que ça se convertira exactement en euros. Hein. Et puis, Apple qui va annoncer leur iPad mini sans doute demain au moment où on enregistre qui sera sans doute un petit peu moins cher aussi. Mais avec 32 gigas, on a eu des informations notamment sur la taille que prend l'installation de Windows. Alors, il parlait du fait qu'avec l'installation de Windows, de Office, qui est la seule application ancien Windows qui fonctionne sur les tablettes Windows RT, donc avec Windows, Office et quelques applications, il disait, il vous restera encore à peu près une vingtaine de gigas. Donc, ça prend quand même pas mal de place, quoi. Là, on est Windows plus Office, c'est plus de 10 gigas quand même. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas une version 16 gigas, je pense.
Et on a la possibilité d'avoir une clé USB ou d'avoir de brancher quelque chose d'externe, non?
Tout à fait, oui.
Alors, ça change un peu la donne par rapport
complètement à
Apple. Moi, une chose que j'ai entendu dire, c'est que finalement, alors la Surface, elle utilise le système Windows RT qui n'est pas compatible avec Windows 8. Avec Windows 8.
Alors, j'ai entendu que ça pouvait créer...
Ok.
C'est pas exactement ça en fait. Windows RT, bon, je l'explique parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui sont pas tout à fait au courant. Windows 8 existe en deux versions, une version Pro et une version RT. Mm-hmm. La version RT propose uniquement les applications de la nouvelle interface. Donc on n'a pas vraiment d'application, on peut pas installer une application sur le desktop comme on le fait aujourd'hui sur Windows 7. Windows 8 Pro, on a à la fois la nouvelle interface et le desktop. Donc, sur une version Windows 8 Pro, on peut tout faire. Ces surfaces-là sont des surfaces uniquement Windows RT, donc uniquement nouvelle interface. La seule exception étant Office, qui est quand même un élément essentiel. On peut utiliser Office en version desktop classique, mais on ne peut pas installer d'autres applications desktop. Il y aura une Surface Pro qui sortira dans 3 mois, sans doute un peu plus cher, certainement un peu plus cher d'ailleurs, qui là pourra faire les deux. Et il y a d'autres constructeurs qui proposent déjà des tablettes Windows 8 Pro qui permettent de faire les deux.
Ça c'est quand même important parce que l'utilisation d'Excel, de Word dans l'iPad actuel, elle est vraiment mauvaise. Moi, je vois la complexité parce que de plus en plus en entreprise, on utilise des iPads, mais la complexité pour des gens normaux entre guillemets de gérer les iPads, de gérer les applications, de gérer l'upload de leurs photos, vidéos, qui n'est pas facile avec l'iPad. Alors, je pense que là, ils peuvent. Il y a un marché vraiment professionnel qui est à prendre, je pense.
C'est certain.
Moi, je pense qu'Apple n'a pas du tout résolu ça. Moi, personnellement, j'ai un iPad, je l'utilise, mais pour le travail, à part pour montrer des vidéos et des photos, je n'utilise pas parce que je n'aime pas le. J'adore le clavier physique, donc j'ai un BlackBerry aussi, et c'est pour ça que je suis tenté par la Surface. Ouais. Et voilà quoi. Alors je trouve qu'il y a vraiment un marché à prendre.
Mais je pense que pour toi, effectivement, les surfaces et les tablettes Windows 8 en général pourraient être une solution tout à fait adaptée. D'ailleurs, tu parlais de Windows, de Office. On a appris que Office 2013 entrait en RTM, Release to Manufacturing, donc il est fini. Donc il est disponible pour les entreprises en novembre et pour le grand public en février, donc la nouvelle version d'Office. Et entre parenthèses, il sera aussi disponible sur iPad et Android bientôt, a priori en mars de l'année prochaine, mais la date a été un petit peu discutée. Mais en tout cas, on sait qu'il va arriver, c'est quasiment certain, sur iPad et Android. Donc Microsoft a bien vu qu'il faut être présent partout pour être sûr d'avoir le marché. Même s'ils ont leur matériel et leur logiciel, ils ne vont pas être absents des autres plateformes. Et je pense que là encore, c'est une preuve de... Là, c'est même pas vraiment une question de courage, c'est une question de clairvoyance. Il faut le faire. Ils vont pas se réserver à eux seuls leur logiciel, parce qu'il faut qu'il soit disponible partout.
Et moi, je trouve une chose, c'est que quand on dit Office 2013, moi, je trouve toujours le logiciel très bon. La seule truc qu'il faudrait améliorer, et j'espère qu'ils le feront, c'est inclure une méthode simple pour partager des fichiers et inclure aussi
SkyDrive. Ouais. Mais c'est SkyDrive, oui, ça, il est inclus avec Windows 8 et il est inclus avec Office 2013. Alors donc ça, SkyDrive est... Ouais. Oui.
Mais ça dépendra aussi de la manière dont les entreprises peuvent l'intégrer. Parce que souvent, OK, il y a les fonctionnalités, mais est-ce que les entreprises en général vont inclure SkyDrive dans leur...
C'est là que Microsoft a une force, c'est qu'ils connaissent bien les problématiques des entreprises. Et je ne sais pas si c'est le cas, mais ça ne me surprendrait pas du tout qu'ils proposent une sorte de SkyDrive privé avec leur suite d'entreprises qui existent déjà. Il y a des choses formidables qui se font avec Windows en entreprise, les choses comme Active Directory, etc., qu'ils proposent un SkyDrive privé à l'entreprise pour qu'il soit sécurisé. Ça, c'est tout à fait possible. On a aussi des informations sur le service de musique qui s'appelle Xbox Music. Moi, j'avoue que j'aurais pas choisi le nom Xbox parce que c'est Xbox Music sur Windows. Pourquoi l'appeler Xbox? Je sais que Xbox marche bien, mais bon. Bref, c'est une sorte de Spotify qui est proposé gratuitement pendant 6 mois à tous les utilisateurs de Windows 8. C'est plutôt pas mal, je trouve. C'est-à-dire que votre appareil, il arrive déjà, il est disponible avec une sorte de radio gratuite à la Spotify. Bon, évidemment, après, ils espèrent que vous paierez, mais c'est quand même pas mal. Microsoft dépenserait plus d'1 milliard pour le marketing de Windows 8. À mon sens, ils font pas le marketing exactement comme il faut. Vu le changement d'utilisation, il faudrait que ça soit incroyablement didactique. Et on a plutôt des gens qui dansent avec des tablettes et des touch covers qui se cliquent et qui se décliquent. Pour moi, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Mais bon, au moins, ils ont pris la décision d'inclure une vidéo de présentation de l'interface Windows quand vous lancez pour la première fois. Donc, c'est déjà ça. À mon avis, il va falloir un temps d'adaptation de toute façon, mais il faudrait qu'ils fassent des... Là, il faudrait qu'ils copient encore plus Apple et qu'ils fassent des vidéos hyper simples, explicatives de comment ça fonctionne pour que les gens comprennent. Mais bon...
Et ils sont en train aussi d'en lancer leur Windows Shop ou Microsoft Shop, non, aux
États-Unis. Oui, tout à fait, oui. Microsoft Shop aux États-Unis, ils en ont une trentaine, un petit peu copiés sur les Apple Stores. C'est les Microsoft Stores, d'ailleurs.
Moi, ce que je trouve dommage avec Microsoft, c'est vraiment au niveau marketing ou branding. C'est vrai que là, on a Windows, des fois on a Microsoft, des fois on a Xbox. Mm. C'est un peu, ça tourne tout autour. Et des fois, on a du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas appelé ça Windows Music ou Microsoft
Music. Oui, c'est
Music,
ça. Exactement, oui. Enfin bon. Dernière chose, il semblerait que les garanties des tablettes Surface en Europe soient d'un an seulement et la loi européenne exige qu'il y ait 2 ans de garantie. Et ça, c'est un point qu'on n'est pas certain d'avoir tout à fait résolu. J'imagine que ça sera le cas bientôt. Mais en tout cas,
sur l'iPad, on a 2 ans.
Ah bah oui, bien sûr.
Ça, je savais pas.
Oui, c'est la garantie est de 2 ans sur tout ces types d'objets.
Et la raison, je dis oui, bien sûr. Parce que normalement, c'est 1 année, non, pour un téléphone.
Non, c'est la loi européenne qui exige 2 ans. Enfin, moi, je dis ça, c'est ce que j'ai lu sur l'internet. Hein, donc, il faudrait que je demande à un juriste. J'en ai un à la maison, je lui demanderai. Mais bon, dans tous les cas, Microsoft en a vendu énormément. Ils sont déjà en rupture. C'est sur certains modèles. Donc bon, on ne sait pas combien ils en avaient en stock, mais a priori ça marche pas mal pour le moment. C'est vrai que la Surface, on l'avait dit à l'époque, c'est un appareil très très enthousiasmant. Personnellement, j'en ai pas encore commandé un. Je vais rester sur mon iPad pour le moment, comme je le disais souvent. Il faut, à mon sens, que Windows 8 s'installe dans l'année 2013 pour que les choses soient vraiment décollent vraiment. À partir de là, j'y réfléchirai sérieusement. Bon. C'est tout pour Windows 8, c'est tout pour notre partie des 3 longues infos à retenir. On a parlé donc de la taxe Google, de la liberté d'expression et de Windows 8. Je vais faire un tout petit break pour parler du sponsor et après on va conclure avec nos news et nos rumeurs. Notre sponsor, comme vous le savez évidemment, c'est Pritel. Pritel, c'est un MVNO. Un MVNO, c'est un fournisseur de services mobiles et eux, en l'occurrence, ils utilisent le réseau de SFR, donc c'est un réseau solide et ils proposent des forfaits qui sont assez intéressants puisque ils ont bon, on vous en a déjà parlé hein, dans l'émission, donc vous connaissez un petit peu, mais je refais le laïus rapidement pour ceux qui n'avaient pas écouté. C'est le forfait modulo. Le forfait modulo, c'est un forfait qui se module en fonction de votre utilisation. On ne parle pas là d'un forfait qui saute d'un type de forfait à l'autre, d'un mois sur l'autre. C'est vraiment un forfait où vous payez ce que vous utilisez. Si un mois vous êtes en vacances, vous utilisez presque rien, et ben vous allez payer quelques euros. Et si un mois vous êtes un petit peu plus, vous avez plus de boulot et vous allez utiliser plus, et ben vous paierez ce que vous avez consommé. Donc ça s'adapte vraiment à votre utilisation. Il y a aujourd'hui le forfait modulo qui existe, mais comme vous le savez, Pritel réfléchit à un forfait modulo pour la data. Ils ont fait une étude auprès des auditeurs de NoWatch et des spectateurs de NoWatch pour savoir un petit peu comment vous utilisiez vos appareils mobiles et comment vous consommiez votre data en mobilité. Et ils sont en train de réfléchir à un nouveau forfait qui sera différent des forfaits modulo actuels, mais directement destiné aux gros utilisateurs de données. Donc, en attendant l'arrivée du forfait modulo data, s'ils l'appellent comme ça, vous pouvez en tout cas aller faire un tour chez Pritel, parce que vous allez voir que leurs forfaits vous intéresseront peut-être. Ils sont vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et en plus de ça, ils ont un programme de recyclage qui vous permet, d'une part, d'acheter des smartphones reconditionnés à des prix plutôt bas. Par exemple, un iPhone 4 est à 299 €, un S2, un Galaxy S2 est à 275 €, donc c'est des très bons tarifs, et surtout qui sont garantis 6 mois au lieu des 3 mois en général pour les appareils reconditionnés. Mais en plus, vous pouvez également recycler votre appareil, c'est-à-dire que si vous êtes déjà chez Pritel, vous pouvez leur envoyer un appareil, le revendre, et ils vous vont transformer la valeur en avoir sur vos futures factures Pritel. Donc ça peut vous permettre d'économiser des sous. Ça peut être vraiment une formule qui peut être intéressante. Donc allez y jeter un coup d'œil. Sur le site nowatch.net, vous avez une bannière sur la barre de droite. Vous cliquez là-dessus et vous aurez plus d'informations. Et en plus, vous leur montrerez que vous êtes passé par chez nous. C'est forcément nous filer un coup de main. Entre parenthèses, il y avait, avec le questionnaire dont on vous parlait pour cette histoire de nouveau forfait modulo, un Galaxy S3 a gagné, et on a le nom de l'heureux gagnant de ce Galaxy S3, c'est François d'Annecy. J'imagine qu'il habite à Annecy, hein, c'est pas François d'Annecy, son nom de famille.
proche de chez nous.
C'est ça. Qui gagne un Galaxy S3, donc bravo à lui, et merci à tous les participants au questionnaire Pritel, et donc bravo François pour ton magnifique Galaxy S3, et merci à Pritel pour le sponsoring de cette émission. On continue donc dans l'émission avec la partie des news et rumeurs sur lesquelles on passe un petit peu plus rapidement. Je vais me lancer avec une chose que vous savez, hein, c'est l'annonce de demain au moment où on enregistre, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute un iPad mini qui sera annoncé, c'est le 23, on fait un live sur No Watch, évidemment, que vous pourrez revoir si jamais vous le ratez le 23 à 19h. Samsung et avant de passer à ça, donc on aura sans doute un iPad mini. Certains parlaient d'un prix de $250, d'autres de $329. Moi, je pense qu'il faudrait aller plutôt vers le plus bas, mais bon, c'est quand même Apple, on verra. Il y aurait sans doute un MacBook Retina 13 pouces, la nouvelle version d'iTunes qui m'enthousiasmait beaucoup quand elle a été annoncée il y a quelques temps. Peut-être un iPad mini donc qui serait plutôt orienté lecture avec une nouvelle version d'iBook, etc., etc. Toi, rapidement, Mike, un iPad mini, ça te dirait, ça t'intéresserait?
Moi, je pense que oui. Je discutais avec quelqu'un de la gente féminine aujourd'hui qui disait justement que l'iPad, c'est gros pour mettre dans un sac. Et je pense que ça va répondre à une demande assez énorme de la gente féminine d'avoir un iPad plus petit. Moi, c'est ce possible. Qui m'étonne toujours, c'est à l'époque de Steve Jobs, on n'entendait jamais parler des produits Apple avant qu'ils sortent. Maintenant, on sait exactement ce qu'ils vont avoir avant même l'annonce. Donc,
c'est pas tout à fait vrai. On avait quand même beaucoup de rumeurs déjà à l'époque de Steve Jobs. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup aussi ces derniers temps, mais il y en avait quand même pas mal déjà.
L'iPhone 4, ça avait déjà été un peu leaké, comme on dit.
Ouais. Bon, c'est ça. C'est-à-dire que l'iPad qui avait été bien gardé secret, mais. Samsung et Apple s'éloignent beaucoup et il y aurait donc des arrêts de deal pour les processeurs peut-être et quasi confirmé pour les écrans. Samsung ne fabriquera plus d'écrans pour Apple, donc on se demandait combien de temps leur relation pourrait durer alors qu'ils se tapaient de l'autre côté. Ben là, visiblement, la séparation est en train d'être consommée. Il semblerait aussi que Apple doive s'excuser sur son site et dans les journaux en Angleterre en expliquant que Samsung n'a pas copié l'iPad. C'est une décision de justice, bien sûr, et ça concerne uniquement l'Angleterre, mais c'est plutôt amusant, d'autant plus que le juge avait expliqué au moment de rendre son jugement, il disait « Samsung n'a évidemment pas copié l'iPad puisque le Galaxy Tab a l'air bien moins cool, donc il n'y a personne pourrait les confondre. » Donc, mais bon, il a quand même condamné Apple à s'excuser publiquement. Et il a dit que ça devait être présenté d'une certaine manière sur le site web. Et Apple a fait appel, évidemment. L'appel n'a pas été retenu. Donc, il semble qu'on doive bientôt voir sur le site d'Apple, Samsung n'a pas copié l'iPad.
C'est ça très british, je me demande.
C'est très british, ouais. entre parenthèses, tu disais les tablettes 7 pouces pourraient avoir un succès. C'est vrai qu'ils ont déjà un succès puisque le Nexus 7 est magnifique et il se vend très bien, le Kindle Fire se vend très bien, etc. Et Google pourrait annoncer, c'est un petit peu les deux semaines des annonces là et des conférences. Comme le mois dernier, il y en avait eu 4 ou 5. Là, on a Apple le 23, Google qui en fait une le 29. La sortie de Windows le 26 et une conférence Windows Phone 8 le 28, je crois.
Ma question à moi, donc, Patrick, c'est que toi qui es une référence de la tech française, est-ce que tu te fais inviter?
Non, pas du tout. Je
pas
me fais
encore,
pas inviter.
Mais,
non, non,
mon
non.
Dieu.
Non, c'est, tu vois, bah, écoute, il faut peut-être faire du lobbying un petit peu plus. Non, mais de toute façon, je suis pas certain que j'irai parce que, d'une part, j'ai pas énormément de temps et on le voit tellement, bien sur le net et en suivant justement les lives. En même temps, je dis non, je me fais pas inviter, mais No Watch se fait inviter. Ils seront normalement. Moi, je peux pas y aller, mais Cédric et Jérôme vont aller à la présentation de Windows 8 et peut-être Windows Phone 8, je sais plus. Donc oui, No Watch est quand même sur le radar. Non, c'est à Paris.
En France. Okay.
Et donc Google devrait annoncer, enfin ils ont une annonce le 29, peut-être une tablette 10 pouces fabriquée par Samsung et un nouveau téléphone Nexus qui serait le Nexus 4 peut-être, fabriqué par LG. Donc on en saura plus la semaine prochaine. Et évidemment, comme je vous le disais, il y aura un event Windows Phone 8 le 29 octobre qui devrait peut-être nous montrer les fameuses fonctionnalités cachées que Microsoft ne pouvait pas révéler de Windows Phone 8. J'avoue que ils ont réussi à m'intriguer avec toutes ces histoires. J'attends de voir de quoi il s'agit. Parce qu'ils ont tellement, on a tellement eu de rumeurs. Oui, Microsoft cache certaines fonctionnalités qu'ils n'ont pas voulu annoncer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé le SDK aux développeurs et que, etc., etc. Maintenant, je suis curieux. Donc, on verra.
Bon, finalement, ça veut dire qu'ils ont réussi. Hein. On dit toujours qu'ils sont pas très bons en PR, qu'ils sont un peu nuls par rapport à Apple. Ben, ils arrivent à faire parler d'eux. Et c'est pas mal.
Oui, tout à fait. Ouais. Quelques petites news pour terminer. D'une part, Netflix arriverait peut-être en France bientôt. On a toujours ce problème de SVOD qui est la VOD subscription VOD, la VOD avec abonnement, qui a normalement un délai bien plus long. Je crois que c'est 6 mois en France qu'il faudrait résoudre que la VOD normale. La VOD c'est 3 mois et la SVOD c'est 6 mois. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, si on sait pourquoi, c'est pour certains modèles économiques, mais tout le monde voudrait que ça change. Donc peut-être que ça va arriver et qu'on aura un service Netflix digne de ce nom et entre parenthèses un service Canal Play Infinity qui est équivalent à Netflix qui serait aussi digne de ce nom bientôt. Une info intéressante sur Google, il n'y a plus de résultats standards. C'est une info que j'ai vue chez notre ami Corben qui était en vadrouille en Islande ces derniers temps. Allez voir sur son site, il a fait des infos sympathiques ou plutôt sur Twitter. Il n'y a plus de résultats standards. C'est-à-dire que si moi je fais une recherche et que quelqu'un d'autre fait une recherche, même si on n'est pas connecté à Google, les résultats seront pas les mêmes parce qu'ils agrègent tellement d'informations, l'adresse IP, etc., etc. Évidemment, si on est connecté, il y a encore plus d'informations qui sont prises en compte pour vous livrer des résultats personnalisés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de résultats qui sont identiques pour tout le monde. Tous sont personnalisés. Donc, c'est intéressant à savoir. Si vous envoyez un lien en disant à quelqu'un, ah, bah, c'est le troisième résultat sur Google, faites gaffe. Parce que c'est des résultats qui sont a priori uniques à vous. Si vous dites oh là là, mais trop lol, le site de Bonjour Madame où on voit des femmes à poil, il est en troisième résultat quand je tape ça. La personne en face, il va taper, il va dire bah non, moi je vois pas. C'est peut-être parce que vous avez des intérêts particuliers, donc faites attention.
Ce que j'ai entendu dire, c'est que Google je crois que c'était dans une conférence que l'ex-CEO parlait. Comment il s'appelait l'ex-CEO de Google? J'ai son nom. Eric Schmidt, voilà.
Ah oui,
et il disait qu'ils étaient intéressés pour réobtenir les résultats de Twitter. Donc, je pense qu'ils sont en négociation pour essayer d'obtenir et d'optimiser leurs recherches.
C'est possible, oui. Effectivement. Une autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est un projet de Microsoft qui est en recherche et développement. J'imagine que là aussi ils le font pour, ils l'ont montré pour redorer un petit peu leur image dans ce domaine. C'est une sorte de bracelet avec une caméra qui est fixée au poignet et qui lit les mouvements de la main. et plus particulièrement les mouvements des doigts. Donc ça fait que on peut faire des actions, enfin évidemment ce bracelet est relié à une à un ordinateur hein. Donc on peut faire comprendre des actions à notre machine en faisant des mouvements avec nos doigts. Par exemple, si on ferme le poing, ça va faire une certaine action. Si on lève le pouce, ça va faire une action. Si on touche le pouce et l'index, ça va faire une autre action, etc., etc. Et elle peut lire assez précisément tous ces mouvements et en déduire des actions spécifiques. Alors évidemment, la première chose à laquelle tout le monde a pensé, c'est Google Glass. Ça serait une manière parfaite de contrôler Google Glass. Ça serait aussi une manière très intéressante de contrôler des smartphones ou des tablettes et même des ordinateurs, hein, pourquoi pas. C'est vraiment, vraiment une interface que j'ai trouvée très intéressante. C'est encore au stade de recherche et développement. L'appareil est un petit peu trop gros pour être utilisé de manière confortable. Mais si on arrive à un résultat miniaturisé et efficace, c'est vraiment une avenue à explorer à mon sens.
Moi, je trouve ça génial et ça va dans la direction que Microsoft a pris avec la Kinect, hein, qui est quand même une belle interface pour reconnaître. Moi, j'avais entendu dire que certaines personnes pouvaient bientôt utiliser la Kinect pour faire de la reconnaissance de personnes, pour scanner le corps des gens et pour leur proposer des habits. Et je trouve que ça, c'est encore une, mais ça serait une. Ouais, une chose c'est pas marrant, mal pour justement faire du shopping online et ce genre de choses. Alors je trouve qu'ils utilisent, je pense, leurs compétences à l'intérieur qu'ils ont obtenues en achetant Kinect. Mais je trouve que moi je trouve ça génial. Et surtout si on peut l'utiliser pour lire, je lis l'article là, le langage des sourds et ce genre de choses pour aider d'autres personnes. Je trouve ça vraiment vraiment cool.
Ouais, c'est bon. En l'occurrence, c'est moi qui l'ai appelé le langage des signes pour informatique, mais peut-être que ça pourrait effectivement servir à reconnaître le langage des signes. Ouais. Pour moi, c'est à peu près tout. Il y avait d'autres petits sujets sur Julian Assange et Anonymous qui s'engueule, un brevet Apple qui permet de contrôler votre téléphone à distance, le nouveau méga upload qui serait totalement inviolable. Bon, c'est pas des choses foncièrement essentielles, donc je pense que je vais faire l'impasse. Mais je crois que t'avais un autre sujet que tu voulais évoquer.
Oui, comme d'hab, dans Niptech, on parle de petites startups. Ça, c'est un des sujets qu'on aime bien. Donc, je me suis dit, mettons une petite news sur une startup que j'ai trouvée assez intéressante. Alors, toujours, bien sûr, c'est Kevin Rose qui a investi dedans, qui, lui, maintenant, je crois qu'il fait partie de Google Ventures, qui est le fonds de Google. Hein. Et donc, ouais, voilà. Mais quand on est soutenu par quelqu'un de connu sur le web, automatiquement, on entend des choses intéressantes. Mais moi, je trouvais que c'est intéressant parce que c'est un domaine dont j'avais jamais entendu parler. Alors, c'est une problématique et la société s'appelle Twilio. Et en fait, ils partent de cette problématique que les écoles ont toujours ont des systèmes très différents pour agréger les classes des élèves, les notes des élèves, les différents places où ils sont. Et chaque école a à peu près son même type de son logiciel propre. Et chaque école des fois le développe par eux-mêmes. Et ils ont cette énorme problématique. Alors eux, ce qu'ils se proposent de faire, c'est
T'interromps une petite seconde. C'est Clever, le nom de la société. Twilio, c'est dans un autre domaine, mais ils font un petit peu la même chose.
Tout à fait. C'est Clever, exactement. Et l'idée, déjà le nom est pas mal, hein, donc bravo à eux. Et l'idée, c'est d'agréger des données, c'est-à-dire d'avoir des données standardiser la manière d'obtenir ces données-là pour toutes les écoles et afin que les développeurs puissent avoir une manière standard. Ils ont développé un API pour développer des logiciels et pour aider les écoles. Et ça, je trouvais que c'était pas mal parce que j'imagine la problématique que c'est. Et ils ont réussi à avoir 2000 écoles, donc 2000 clients en très peu de temps. Donc, je trouvais cette start-up intéressante et ça va dans la direction de toutes ces start-up qui se développent au niveau de l'éducation. Donc, les plus connus, c'est Khan Academy, mais aux États-Unis, on voit vraiment qu'il y a une motivation à développer l'éducation, à développer des nouveaux systèmes, des nouvelles manières d'apprendre. Et ça, je trouve super intéressant.
C'est sûr, oui. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant parce que c'est des, un enthousiasme pour la chose technologique qu'on retrouve pas forcément ailleurs et bon effectivement c'est plutôt enthousiasmant et quand je dis pour la chose technologique c'est ça va un peu plus loin que la chose technologique, c'est l'application concrète à des choses auxquelles on pense pas forcément ou dont on sait pas comment on pourrait créer des applications Et bon, bref, ça pourrait repartir sur un autre débat dans lequel on ne va pas se lancer immédiatement. Mais donc, on arrive à la fin de notre émission. Je voudrais évidemment remercier tous ceux qui ont participé, c'est-à-dire Jeff et Mike, d'avoir été là. Je voudrais également vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur l'iTunes Store pour nous laisser un commentaire et ou une note pour nous aider à remonter dans les classements de l'iTunes Store, machin, c'est super pratique, etc. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen de nous filer un coup de main. Si vous pouvez aussi, éventuellement, si vous avez un petit peu de sous en trop dans votre poche et que vous vous dites les petits gars de No Watch, ils sont plutôt sympathiques, je voudrais leur filer un coup de main en dehors de la question du sponsor, vous pouvez aller sur le fanshop sur nowatch.net/fanshop où il y a un lien depuis la page d'accueil et vous pouvez acheter un petit goodies de No Watch. L'argent nous revient directement, vous connaissez l'histoire, donc c'est un moyen de nous soutenir qu'il ne faut pas négliger. Et je crois que c'est tout. Je voudrais évidemment remercier donc Mike d'avoir été là et te donner l'occasion de nous parler un petit peu de Niptech et de ce que tu fais sur le web en général. On a parlé un petit peu de Niptech. Pour ceux qui auraient la curiosité piquée, de quoi s'agit-il et comment peuvent-ils en apprendre plus?
Bah, Niptech, alors on l'a commencé il y a 3 ans maintenant et on a le grand plaisir d'être sur nowatch.net depuis, j'arrive pas à dire, depuis 3-4 mois je crois, et ouais, ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Niptech c'est quoi en fait? C'est un podcast sur les startups, sur la technologie, puis sur l'inspiration, donc je suis pas tout seul.
C'est pas l'innovation et l'inspiration?
Oui, tu dois mieux connaître que moi. Tu sais pourquoi? C'est que j'ai une autre, c'est Ben, le fidèle acolyte qui parle plus que moi et mieux que moi. Qui en parle, et puis alors à chaque fois je lui dis de pas l'oublier, mais moi je le dis mal. Et bien sûr on a d'autres personnes qui viennent du Canada, de France, et puis voilà, on essaie de parler de start-up, de choses, de tech, et puis voilà, avec un angle des fois plus entrepreneur et puis et start-up.
Bah, très bien, donc c'est sur nowatch.net notamment que vous pourrez le retrouver. Je vais juste lire le commentaire de David GL sur iTunes qui nous dit « J'aime 5 étoiles », c'est le dernier commentaire. Hein. « J'aime beaucoup ce podcast pour la simplicité des intervenants, le ton du traitement de l'info et la régularité du travail fourni. Bravo pour tout ce travail fourni bénévolement, je crois. » Oui, pour le moment, c'est encore plus ou moins bénévole. Quand on a des sponsors, on touche un peu de sous, mais oui, ça paye pas énormément. Hein. « Excellente continuation à Patrick et ses acolytes. Merci à toi, David GL. » Donc, vous pouvez faire comme lui et nous laisser un commentaire là-bas. Vous pouvez aussi aller sur nowatch.net pour commenter sur cette émission, nous dire ce que vous avez pensé, nous dire ce qui n'a pas été, ce qui a été, ce qui vous a plu, discuter avec les autres auditeurs. Vous pouvez aller sur nowatch.net pour découvrir d'autres émissions comme Niptech notamment, mais pas seulement. Il y en a plein d'autres qui sont sympathiques et que vous aimerez, nous en sommes certains, qu'elles soient audio ou vidéo. Et puis nous, on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour une nouvelle émission du Rendez-vous Tech. Si vous écoutez cette émission avant le 23, eh ben venez ce soir sur nowatch.net le 23 à 19h pour le live de l'annonce d'Apple. Et puis sinon, bah, comme je le disais, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, j'espère que vous vous porterez très très bien et je vous remercie encore d'écouter l'émission et je vous fais de grosses bises. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao.
Ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.